creuserons beaucoup plus dans la séance 5. Mais cultiver la gratitude, c'est choisir de regarder la vie d'une manière nouvelle, les choses faciles et heureuses comme celles qui sont plus difficiles. C'est apprendre, au fond, à tout considérer, si ce n'est comme un cadeau, au moins comme une opportunité d'un progrès ou d'un surcroît de foi, d'espérance ou de charité. Et au fond, c'est vrai que chaque instant ne m'est donné, ne nous est donné qu'une seule fois. À moi de le recevoir comme une opportunité, en particulier pour aimer davantage. Pour commencer, nous allons faire une sorte d'audit de notre état de gratitude, grâce à une grille en quatre niveaux de ce que le Père Richard appelle la gratitude-attitude. Le but de ce petit exercice et le but de notre pèlerinage de gratitude, c'est de devenir plus maître de notre état intérieur. On sait que souvent notre état intérieur oscille en fonction des événements extérieurs, positifs ou négatifs, que nous vivons. Et un des buts de notre parcours est bien de nous aider à grandir dans ce que nous appelons dans ce qu'on appelle la liberté royale. Donc vous trouverez une définition dans vos feuilles, qui est une définition tirée du catéchisme de l'Église catholique. La liberté royale, c'est apprendre à devenir davantage maître de notre état intérieur, c'est-à-dire parvenir à demeurer dans un état relativement stable de gratitude. Alors, où en suis-je ? Niveau 1, je prends la grille en quatre niveaux, je suis dans l'ingratitude. C'est-à-dire que je n'ai pas de gratitude, ni pour ce que j'ai, ni pour ce que je suis, ni pour ce que je vis. Je fais l'expérience de mon impuissance. Je tends à être dans la plainte, dans la victimisation. Je me dis, moi, j'ai pas de chance, c'est pas ma faute, j'y peux rien, ça changera jamais, voire Dieu m'a oublié. Attention quand même à ce niveau, saint Ignace nous met en garde, et vous avez sa citation complète également dans vos feuilles. Il nous dit « L'ingratitude est l'origine de tout mal et de tout péché ». Autant dire que j'espère que nous n'en sommes plus complètement à ce stade 1. Le deuxième niveau, on peut le traduire par « je ressens ponctuellement de la gratitude ». C'est-à-dire que de temps en temps, j'éprouve de la gratitude, mais plutôt à la suite d'un événement positif. Mais ça reste ponctuel, ça n'est pas un état habituel, ça n'est pas encore un état stable. Toutefois, l'émotion que je ressens est bien le signe que je suis touché par le bienfait et sa gratuité. Donc ça, vous voyez, c'est l'étape 2, c'est notre deuxième R, ressentir. Mais au niveau 2 de la gratitude-attitude, je ne cherche pas encore délibérément à en prendre davantage conscience, c'est-à-dire que je zappe l'étape 1 qui est reconnaître le bienfait qui m'est donné, et je ne cherche pas nécessairement non plus à agir en retour, remercier et engager ma libre volonté. On pourrait quand même au moins en être là grâce à cette semaine. Le niveau 3, on progresse, je travaille à faire grandir la vertu de gratitude. C'est-à-dire que je m'exerce consciencieusement à cultiver l'attitude de gratitude en prêtant attention à ce qui m'advient pour y reconnaître les dons que je reçois et, entraîné par l'émotion, je pose des actes de gratitude, les trois R. Au niveau 3, j'apprends à demeurer dans la gratitude également dans les contrariétés, on va y revenir évidemment dans cette soirée, les difficultés d'abord petites et puis après un peu plus grandes. On peut dire déjà que la vertu s'installe en moi, elle n'est pas encore parfaite, elle n'est pas spontanée, c'est parfois difficile, mais je progresse. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore 4 semaines pour y travailler. Au niveau 4, la gratitude est installée dans ma vie. C'est-à-dire qu'elle est devenue une attitude habituelle et je suis capable de vivre la gratitude conditionnelle, c'est-à-dire après un événement positif, mais également celle qu'on appelle inconditionnelle, c'est-à-dire indépendamment de ce qui m'arrive. Et finalement, je reçois chaque instant de mon existence comme un cadeau ou au moins comme une occasion de grandir. Moi, j'en connais certains parmi vous qui en sont déjà là. Que je vais dénoncer. Il y a Pep, vous savez, le grand dont je vous ai parlé la semaine dernière. Dans l'équipe d'accueil, on a Noémie, Clémence, par exemple. Et puis, il y a Marie-Blanche aussi. Alors, je ne dis pas ça pour les dénoncer, pour faire une sorte de concours, mais peut-être comme exercice cette semaine, il pourrait être intéressant de réfléchir à ces personnes, vous savez, qui vous donnent immédiatement de la joie, auprès desquelles, au bout de 5 minutes, on se sent bien. et puis discuter avec elles de la gratitude, précisément, parce que peut-être même qu'elles ignorent qu'elles sont déjà au niveau 4 de la gratitude. Alors, ce n'est pas un exercice qui est dans vos carnets, mais que je vous propose, c'est un bonus. Quand la vertu de gratitude est installée dans ma vie, les moments heureux, ils vont être rapportés aux autres et à Dieu. Et les difficultés ne sont évidemment pas des cadeaux, ça n'aurait pas de sens de dire qu'une difficulté est un cadeau, mais j'ai la capacité de les vivre avec Dieu et de les considérer comme pouvant receler une grâce, une occasion de croissance, de fécondité. Et donc, dans cette gratitude-attitude, je peux remercier non pas pour l'épreuve elle-même, encore une fois, ça n'aurait pas de sens, mais dans l'épreuve, je peux parvenir à remercier pour la grâce qui m'y est offerte et que j'y trouve. Et puis ça devient plus facile. La vertu, lorsqu'elle est installée, je n'ai plus besoin de beaucoup d'efforts pour la maintenir. Évidemment, ça ne veut pas dire que les difficultés ne m'affectent pas, nous sommes humains, mais que je suis capable de revenir rapidement dans la gratitude. Elle devient un trait de mon caractère. Les gens me disent « t'as de la chance, tu vois toujours les choses du bon côté, t'es toujours dans l'action de grâce » si on prend un discours chrétien. Mais en réalité, quand on est là, c'est bien qu'on a développé cette vertu par nos efforts, bien sûr, avec le concours puissant de la grâce de Dieu. Je rassure tous ceux qui sont au niveau 4 et à qui tout le monde va venir parler cette semaine pour l'exercice. Une fois acquise, la vertu de gratitude peut toujours s'approfondir en rapidité, en intensité et en extension dans le champ de ma vie. Moi, j'ose croire que ce parcours va nous conduire à ce niveau-là, tous, et à y demeurer. Alors comment faire justement ? Eh bien, nous pourrons cette semaine nous entraîner à demeurer dans la gratitude, même au cœur des contrariétés quotidiennes. Je parle des contrariétés, hein, pas de l'épreuve qui est un niveau au-dessus qu'on verra un peu plus tard. Cet entraînement, il ne vise pas à développer à la force de notre seul petit bras une positive attitude qui serait un peu naïve, hein, mais bien à acquérir un art chrétien de vivre en assumant nos joies et nos peines. Plusieurs points pour cet entraînement quotidien. Le premier, relativiser les petites contrariétés. Se dire, ça n'est pas si grave. Et c'est vrai que beaucoup de contrariétés quotidiennes, je sors, il pleut, j'ai pas mon parapluie, je vais être trempé en arrivant au boulot, je suis dans les embouteillages, j'ai un rendez-vous, je vais être en retard. Souvent, on peut remarquer, si on est un peu objectif, qu'elles nous troublent exagérément. On peut, comme exercice, s'arrêter, pas si vous êtes sur la route bien sûr, hein, c'est une image, s'arrêter et les relativiser en les regardant d'un point de vue beaucoup plus haut, en replaçant ces petites contrariétés dans l'ensemble de ma vie, et même, pourquoi pas, en les replaçant dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Là, vous voyez bien qu'effectivement, ça devient tout de suite moins grave. Ça me rappelle Olivier, un camarade qui était de Saint-Cloud, qui est mauricien, qui vit là-bas en ce moment. J'arriverai pas à imiter son accent, mais lui, dès qu'on lui parlait de petites contrariétés comme ça, il disait c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave ce que tu me racontes. Mais il a raison, beaucoup de choses ne sont pas graves. Le retard, c'est pas très grave. Bon, peut-être Grouchy à Waterloo, c'était un peu embêtant, mais globalement, souvent, nous pouvons avoir cette faculté à relativiser nos contrariétés ou les offrir. Nous sommes chrétiens, la pluie, je peux l'offrir à l'agriculteur qui a quelques vols d'oiseaux de chez moi. Les prendre avec humour. Je voyais dans un bar cet été, un jour pluvieux, un tableau où le tenancier avait écrit « Pas de pluie, pas de plante, pas de plante, pas de menthe, pas de menthe, pas de mojito, vive la pluie !» Vous voyez, mojito, c'est un cocktail à base de rhum, hein, pour ceux qui ne sont pas adeptes. L'humour peut nous aider à relativiser nos contrariétés. Deuxième point, les considérer, ces contrariétés, comme des opportunités de grandir. En fait, elles peuvent être très utiles parce qu'elles vont me permettre de travailler mon état intérieur et de devenir plus maître de mon état intérieur, c'est-à-dire d'exercer ma liberté royale. Exemples triviaux, les bouchons sur la route, on en parlait, ou la petite dame ou le petit monsieur qui sort ses centimes 1-1-1 à la caisse alors qu'on est un peu pressé. Profitons-en. Profitons-en pour prier pour ces personnes, profitons-en pour leur parler, pourquoi pas, ou pour cultiver, travailler notre vertu de patience. Troisième chose que nous pouvons faire, et ça c'est un point important sur lequel on reviendra d'autres fois, changer de vocabulaire face aux petites contrariétés. Nous savons que le langage a la vertu d'influencer notre pensée. Et donc, il nous est vivement conseillé de travailler sur le vocabulaire pour nous ouvrir à la gratitude. Au lieu de dire « j'en peux plus de ce Bob là au boulot, il m'agace, il m'énerve, il changera jamais », plutôt se dire « tiens, c'est curieux, c'est étrange, pourquoi ce Bob m'énerve autant ? Quel travail je pourrais faire pour être plus à son écoute, plus ouvert ? Que puis-je changer en moi ?» Vous avez un exercice dans les carnets, dans nos cahiers, sur ce changement de vocabulaire. Quatrième chose que nous pouvons faire, tout en assumant mes responsabilités, faire confiance à Dieu et à la providence divine. Par amour, Dieu a librement créé le monde et il le maintient dans l'existence à chaque instant. Je ne sais plus qui m'a dit ça une fois, je pense que c'était un prêtre, mais si Dieu, un micronième de seconde, ne nous voulait plus et ne voulait plus de le monde, tout retournerait au néant, à l'instant. Et pourtant, nous sommes là et le monde est là. Donc nous n'avons rien à craindre. Tout est entre les mains du Père Tout-Puissant et nous pouvons être dans l'espérance. Ça, c'est notre année dernière, mais elle reste tout à fait vraie. Le Christ a remporté la victoire définitive sur le mal et en particulier sur le péché. Et cet acte de foi peut nous conduire à une double attitude. Le psalmiste nous dit « Fais confiance au Seigneur, agis bien ». Donc ce que je peux faire moi, c'est assumer quotidiennement mes responsabilités, là où je peux agir, où j'ai la capacité d'agir, dans mon devoir d'État notamment. Dieu nous invite, en effet, à nous concentrer sur les domaines qui nous sont confiés, notre vie, notre famille, notre travail, nos engagements paroissiaux, associatifs, et où nous pouvons, toujours avec la grâce de Dieu bien sûr, participer à l'édification de sa civilisation de l'amour. Et puis la deuxième attitude de cet acte de foi, là où nous n'avons pas de prise, eh bien c'est de faire confiance à Dieu. Dieu nous invite à ne pas nous inquiéter pour ce qui nous échappe, ce qui n'est pas de notre ressort, dans nos propres vies, comme dans la marche du monde d'ailleurs, et à lui faire finalement humblement confiance. Dans Saint Matthieu, nous lisons « Qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie ?» Et puis dans Saint Jean, nous lisons le Christ qui nous dit « Gardez courage, j'ai vaincu le monde ». Vous avez dans vos feuilles un lien vers une vidéo que je trouve assez illustrative de ça, alors qui n'est pas du tout un chrétien qui parle, il y a un costume peut-être plutôt d'Asie ou d'Inde. Il présente un slide qui est le secret du bonheur. Voilà. Alors il dit, est-ce que j'ai un problème dans la vie ? Non. Alors pourquoi s'inquiéter ? Est-ce que j'ai un problème dans la vie ? Oui. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Oui. Alors pourquoi s'inquiéter ? Est-ce que j'ai un problème dans la vie ? Oui. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Non. Ben alors pourquoi s'inquiéter ? Vous voyez, c'est cet exemple un peu simpliste, mais recèle quand même une vraie dimension chrétienne. Agir là où je peux, faire confiance au Seigneur là où ça m'échappe. Donc, dans notre soirée, dans notre semaine plutôt, on peut se poser cette question : quelles sont les difficultés devant lesquelles je m'épuise, alors que je devrais y consentir humblement et les remettre au Seigneur dans la prière ? Dans notre entraînement à la gratitude, et dans tout entraînement chrétien d'ailleurs, il faut connaître les ennemis de la gratitude, c'est-à-dire ce qui va m'empêcher de regarder au présent ce qui m'arrive dans ma vie comme étant des bienfaits. Dans ces ennemis de la gratitude, il y a d'abord les regrets du passé, avec d'une part le remords, on peut le définir comme la douleur morale d'avoir mal agi, mais le remords peut nous pousser à la conversion, et à la confession et à se convertir pour l'avenir. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi si on passe le cap. Plus difficile est le regret. Le regret, c'est la tristesse d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose. Parce que le regret peut nous enfermer dans le passé. J'aurais dû, si j'avais su, si j'avais dit ça ou si j'avais pas dit ça. Et on voit bien que si on reste là, on fuit virtuellement dans le passé. Alors c'est une lapalissade, mais le passé est le passé. Cette erreur ou ce péché fait définitivement partie de ma vie et de mon histoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu me prend avec et même avec. Donc ce qui importe, on voit bien que c'est de revenir au présent et ce que je vis aujourd'hui. Nous pouvons donc relire notre passé, si besoin, demander pardon à Dieu, à quelqu'un qu'on aurait blessé, et puis choisir délibérément de tourner définitivement la page, faire en fait le deuil de ce passé. Question que nous pourrons nous poser cette semaine, quels regrets reviennent sans cesse et me paralysent, masquent mon présent et les bienfaits que je reçois dans le présent. Le deuxième ennemi de la gratitude, c'est les peurs de l'avenir. Bien sûr, nos peurs sont nombreuses. Peur de ne pas être aimé, peur d'échouer, peur du jugement, peur du déclassement, peur des autres. On sait bien aussi que les peurs sont un moyen puissant qu'utilise le malin, le diable, pour nous paralyser. Donc, la bonne attitude, c'est celle qu'on trouve, et ça aussi vous l'avez dans vos feuilles, dans l'évangile de la marche de Jésus sur les eaux, c'est garder le regard vers celui qui nous aime et qui nous sauve. Et on voit bien que Saint-Pierre, tant qu'il regarde Jésus, il flotte, s'il détourne les yeux, il coule. Question à se poser cette semaine, quelles sont les peurs qui habitent mon cœur ? Troisième, ennemi de la gratitude, l'hypertrophie des soucis de la vie. On y reviendra beaucoup plus la semaine prochaine, donc je passe vite. On peut avoir des soucis bien légitimes, un meilleur travail, mais une loi empirique affirme que ce sur quoi on se concentre grandit. Donc si je me concentre trop sur les soucis de la vie, ils vont prendre une place démesurée. Moi, c'est vrai qu'il m'arrive dans des rendez-vous un peu difficiles, vous voyez, de me projeter complètement, d'y penser, d'oublier ce que je fais, de stresser, alors qu'au fond, comme on le disait à l'instant, travailler un peu et puis s'en remettre à Dieu, généralement, on constate que ça se passe pas si mal. La question que nous pouvons nous poser cette semaine, c'est quels sont les soucis qui, aujourd'hui, m'étouffent ? Et vous avez le très bel acte de confiance de Saint-Claude la Colombière dans vos feuilles qui peut nous aider à méditer sur ce sujet. Quatrième ennemi de la gratitude, la part d'illusion dans la course au bonheur. La description, c'est quand j'aurai ceci ou quand j'aurai fait cela, ben alors là je serai heureux, hein, vraiment j'aurai tout ce qu'il me faut. Bien sûr qu'il n'est pas illégitime de vouloir progresser, de pouvoir se marier, d'avoir des projets, d'avoir un meilleur travail, de faire tel voyage, mais il faut que nous soyons prudents et faire attention à une double illusion. Croire d'abord que quand cet objectif sera atteint, le bonheur sera garanti, nous savons bien qu'il n'en est rien, ou ne plus voir les motifs de se réjouir actuellement, ici et maintenant, puisque finalement cette impatience, elle est une ingratitude vis-à-vis du présent. Et on peut dire là une conclusion d'étape importante, à bien des égards, ce n'est pas le bonheur qui conduit à la gratitude, mais la gratitude qui conduit au bonheur. Jean-Guilhem Xéry le disait un tout petit peu différemment, ce n'est pas seulement le bonheur qui nous met dans la gratitude, mais la gratitude qui nous met davantage dans la vie. Cinquième et dernier ennemi, je vous rassure, l'orgueilleux refus de la dépendance. Notre monde promeut bien souvent, bien trop souvent, un idéal d'autonomie qui s'oppose, par définition, à la dynamique de la gratitude qui, elle, nous fait percevoir combien nous sommes redevables à Dieu et aux autres. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu et grâce aux milliers de rencontres que j'ai faites dans ma vie. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quelle est ma capacité à demander et à recevoir de l'aide ? Est-ce que je suis reconnaissant quand je reçois de l'aide ? Alors maintenant que nous avons identifié les exercices que nous pouvons faire pour cultiver la gratitude dans notre quotidien, que nous connaissons mieux les ennemis de la gratitude, eh bien, il ne nous reste plus, je dirais, qu'à adopter trois attitudes fondamentales. En tout cas, pour le dire autrement, il y a trois attitudes fondamentales qui vont nous aider dans ce chemin de gratitude, dans ce parcours et dans cette culture quotidienne de la gratitude. C'est clairement ce que le Père Richard définit comme la gratitude-attitude. Première attitude fondamentale, avec le Christ, choisir de regarder la lumière plutôt que les ténèbres. Et nous pouvons viser deux choses. Ouvrir davantage les yeux sur les belles choses de mon quotidien, sur le signe de la présence, de l'action de Dieu. S'émerveiller, en fait, tout simplement. Alors, mon épouse est très forte pour s'émerveiller. D'un rayon de soleil, d'un paysage, de la neige qui tombe. Ça, c'était pour la semaine dernière. D'une rencontre, d'une parole de la Bible. Il y avait d'ailleurs un exercice cette semaine où il nous était proposé de faire un chemin quotidien que nous, par définition, nous faisons très souvent, voilà, en regardant autrement les choses et en s'émerveillant. Moi, je suis allé acheter mon pain à midi, très simplement, et j'étais émerveillé par tous ces arbres qu'il y a dans Saint-Cloud, en fait. C'est très vert, Saint-Cloud. C'est étonnant. Deuxième chose que nous pouvons faire, nous désintoxiquer des mauvaises pensées auxquelles, il faut bien l'admettre, nous sommes souvent accros. Sur la route, quel abruti, pour celui qui vient de me passer devant un peu brutalement en voiture, peut devenir « Seigneur, bénis cette personne et apprends-lui à conduire ». Vous voyez que ça change complètement le point de vue tout de même. Ça, ce n'est pas être béatement optimiste, hein, c'est vraiment cultiver l'espérance. Et là, c'est un lien assez fort entre l'espérance et la gratitude. Et puis après tout, Bernanos disait « Un optimiste, c'est un imbécile heureux, mais soyons heureux ». Donc, comme Jésus, choisir de regarder la lumière plutôt que les ténèbres. Avec Jésus, pardon. Comme Marie, faire régulièrement mémoire de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Saint Luc, parmi d'autres évangélistes, nous dit « Marie gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur ». Et il est vrai que parfois, c'est en relisant, c'est après coup, en relisant notre histoire, que nous comprenons. Dans la Genèse, il est écrit « Le Seigneur est en ce lieu ». Et je ne le savais pas, mais c'est très vrai. Donc c'est important peut-être de faire mémoire et de noter par écrit les bienfaits qui nous arrivent pour être en capacité de les relire plus tard et d'y voir peu à peu, au quotidien, l'action de Dieu dans nos vies. Le Père Richard vous en reparlera tout à l'heure. Et puis troisième attitude fondamentale, donc avec Jésus, comme Marie, sous la conduite de l'Esprit-Saint, vivre l'instant présent. Essayez d'accueillir chaque instant comme directement voulu ou au moins permis par Dieu pour moi. Si l'instant est facile, eh bien, gratitude pour la joie. S'il est plus difficile, gratitude pour l'opportunité qu'il me donne de grandir dans la foi, dans l'espérance ou dans la charité. Jean-Guilhem citait le philosophe André Comte Sponville qui dit « La gratitude se réjouit de ce qui a lieu ». La gratitude de se réjouir de ce qui a lieu. Et c'est vrai que les deux moments les plus importants de nos vies, c'est maintenant et à l'heure de notre mort, comme nous dit l'Ave Maria. Mais quoique l'heure de notre mort sera aussi un maintenant. Et on peut-être pour s'aider cette semaine, méditer la très belle prière de sœur Odette Prévost que vous trouverez également dans vos feuilles. Et puis, ce que nous pouvons faire aussi, sous la conduite de l'esprit, dans cette troisième attitude fondamentale, eh bien, au milieu des agitations quotidiennes, et a fortiori quand il y a des moments plus difficiles, ce que saint François de Sales appelle l'exercice de la retraite intérieure. S'arrêter quelques brefs instants pour faire un pèlerinage intérieur à la rencontre de Dieu qui est déjà en moi, dans mon être, dans mon cœur profond. Ce que je vis là, Seigneur, tu le vis avec moi. Voilà, pour nous résumer, et avant de passer la parole au Père Richard et que vous puissiez vous retrouver en groupe, pour cultiver la gratitude, alors peut-être pas ce soir, mais on peut réfléchir un peu au niveau où l'on se trouve, s'entraîner à demeurer dans la gratitude, même dans les contrariétés, ne jamais oublier qui sont les ennemis de la gratitude pour ne pas se laisser détourner de ce chemin-là, et puis adopter les trois attitudes fondamentales qu'on vient de voir, avec le Christ, regarder la lumière, comme Marie, faire mémoire, et sous la conduite de l'Esprit, vivre l'instant présent. Très beaux échanges.